Voix sans frontières sur Aligre FM.
Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Je reçois aujourd'hui dans Chute libre Ali Rahmana et Shala Shafik pour une émission un peu particulière dans l'idée de recevoir des gens, des exilés ou plutôt un exilé d'Iran, iranien qui nous arrive d'Iran donc et s'est installé en France et a suivi des cours de français pour s'initier à notre langue avec l'université de Nanterre. Donc Ali, bonjour.
Bonjour.
Et Shala, merci beaucoup d'être avec nous, puisque vous êtes vous-même quelqu'un qui était une ancienne exilée, je dirais.
Tout à fait.
Et vous êtes là.
Je reste toujours, mais voilà. Ça change de qualité.
Ça change de qualité. Et comme ça, on va pouvoir parler à trois de Ali, de son destin, de son parcours et de son rapport à la langue française, son rapport à la découverte de la ville de Paris et de la France en général. Et à ses intérêts personnels. Alors, vous venez d'Iran, vous venez de rentrer en France en novembre 2021, je crois.
C'est ça.
Et en Iran, vous travaillez pendant 8 ans comme comptable, comme auditeur
Exactement.
Comptable, dans une entreprise. Vous avez un master de comptabilité en 2015.
C'est ça.
Et donc, vous aimez beaucoup de choses, mais là, c'est votre périple professionnel. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses dans la vie que le professionnel. Et en tout cas, je vous souhaite la bienvenue à tous les deux. Et
merci.
On va parler de vous, Ali, de votre périple et de votre sentiment ou non d'exil, puisque vous êtes venu en France. Dites-moi, alors je vais vous poser quelques questions. Les comptables, c'est des gens très sérieux.
Bien sûr.
Bien sûr. Et vous, mais la comptabilité, je crois, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Dans les tablettes assyriennes, les premiers écrits sont des livres de comptabilité. Hein, c'est-à-dire que c'est très ancien et le début de l'écriture est lié aussi aux chiffres, à la comptabilité.
Oui.
Vous aimez les chiffres ?
Oui, j'aime beaucoup les chiffres, calculer les comptes, etc. Normalement, oui, quand vous êtes un comptable... audit aussi, ou travailler sur les chiffres, etc. Normalement, il faudrait aimer les chiffres. Normalement.
Mais la différence entre un comptable et un audit, c'est quoi?
En mon pays,
oui.
les audits, il faut contrôler contrôler le travail de comptabilité.
Voilà, c'est ça. C'est un auditeur, un comptable intelligent, l'audit, c'est ça.
C'est ça. Donc, il faut savoir bien la comptabilité parce que vous devez contrôler le travail de comptabilité. Donc, il faut savoir bien les droits, la comptabilité, etc. Donc, oui, j'ai 8 ans d'expérience.
Et oui,
dans c'est très beaucoup. C'est aussi très difficile parce que pour entrer dans ce chemin, pour la première étape, vous devez travailler. Parfois, on peut dire sans salaire.
Ah oui.
Comme stagiaire. J'entends qu'ici, si quelqu'un qui passe stage, il peut avoir des salaires.
Un petit peu, ça dépend des endroits. Ce n'est pas énorme. Non,
oui, je comprends. Mais en mon pays, non.
Ah, d'accord.
Parce que c'est très important pour... Si vous commencez par audit, vous pouvez gagner beaucoup d'expérience. Mm-hmm. Donc, il faut choisir le premier chemin que vous voulez gagner de l'argent.
Oui.
Ou vous voulez gagner des expériences.
De l'expérience.
C'est
oui,
ça.
Mais en fait, si vous voulez gagner des expériences, je suppose que c'est pour après pouvoir gagner de l'argent.
Exactement, c'est ça. C'est ça.
Alors, question. Moi, je trouve déjà remarquable votre niveau de français. Je trouve que vous vous exprimez, c'est fantastique. Enfin, je vous remercie de. Mais parce que vous avez commencé à apprendre le français quand?
J'ai commencé apprendre le français quand je suis entré en France, parce que...
En 2021
c'est ça, je suis entré en France...
Il n'y a pas deux ans, s'il y a deux ans, tout juste deux ans.
Près de deux ans.
Et là, vous arrivez quand même à vous débrouiller sérieusement. Hein,
oui, parce que vous savez que pour passer des procédures, d'avoir des documents, vous ne pouvez pas travailler, etc. Donc, vous êtes vraiment libre, mais... j'ai choisi de comprendre le français, ouais. apprendre le français, excuse-moi. Pourquoi? Parce que pour entrer dans le société français, pour après avoir du travail, etc., vous avez besoin de français. Donc, j'ai essayé beaucoup pour trouver un chemin pour améliorer ma langue française.
Donc, vous avez eu du temps au début. Mais comment vous avez fait? Parce que vous n'avez pas tout de suite fait des cours à l'université de Nanterre.
Non, pas vraiment, parce que j'ai commencé à apprendre le français par les cours de mairie, chez la mairie.
À la mairie.
Mais c'est vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que chez mairie, il y a beaucoup d'étudiants qui apprend le français avec la différence de niveau.
Oui, c'est
par
ça.
Exemple, dans ma classe, il y a personnes qui sont, par exemple, 10 ans habitent en France, ils parlent bien français, mais ils ne peuvent pas écrire quelque chose. Voilà, j'ai dû apprendre le français avec autres personnes qui bien...
C'est à peu près le même niveau.
Exactement. Ouais. Mais chaque soir, j'ai suivi de français par YouTube.
Ah, d'accord.
Donc, j'ai essayé beaucoup pour...
Vous travailliez beaucoup tous les jours? Combien de temps?
C'est ça. Chaque jour, j'ai appris de français pendant 3 ou 4 heures à la classe,
ouais.
deux, trois heures à la chambre.
À la maison.
Je n'ai pas de maison, parce que j'habite à l'hôtel.
Elle faisait chez moi.
Chez moi,
chez moi,
oui,
voilà.
Ça
va,
chez moi.
Mais vous savez que le fait d'être baigné dans une langue, c'est-à-dire, c'est comme les enfants, quand les enfants viennent au monde, ils ne parlent pas français, ni aucune langue, mais ils sont baignés dans une sonorité, et peu à peu, c'est par les sons qu'on apprend la langue. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que c'était très, très important d'entendre. Moi-même, j'ai connu ça, puisque à 20 ans, j'ai quitté la France, moi, pour aller vivre au Danemark, et je ne parlais pas danois du tout. Donc, j'ai été aussi dans des écoles pour apprendre la langue. Mais il y avait quelque chose que je trouvais intéressant, c'est que quelquefois on est dans un milieu, on est avec des gens, tout le monde parle une langue que vous comprenez très très peu, et quelquefois, je ne sais pas si vous avez remarqué, on rit avec les gens, même si on ne comprend pas ce qu'ils disent.
Okay.
Et il y a une espèce d'empathie, à force de faire semblant de comprendre, on comprend. Enfin, on relie les mots, les sons à quelque chose, et peu à peu on bâtit comme ça une compréhension.
Oui,
et ça, c'est magique, c'est merveilleux, parce que tout à coup, c'est vraiment la relation à l'autre qui se constitue. Et c'est très beau, je trouve. Enfin, voilà.
Oui.
Et alors, vous, la mairie, ça vous a pas beaucoup plu de ces cours où il y avait trop de niveaux différents, et vous avez cherché autre chose?
Bien sûr, après... j'ai croyé que je dois choisir autre solution pour améliorer ma langue. J'ai trouvé des associations qui aidaient les gens surtout les jeunes exilés.
Oui.
Et pour apprendre le français chez elle.
Chez elle.
Chez elle, oui.
Chez
eux. Chez eux, oui. Parce qu'il y a beaucoup d'associations mm-hmm. qui aidaient pour cette raison. Et j'ai appris le français chez l'association qui s'appelle JRS.
JRS, oui.
Ils sont très, très intelligents.
Accueillants.
Accueillants, oui, je sais ça. Accueillants. Après, quand j'ai reçu... j'ai pris mes documents, ça veut dire... J'ai pris des documents.
Oui.
Ça veut dire l'OFRA, c'est une organisation qui donnait votre réponse, qui accepte votre réfugié ou non.
D'accord. Oui. Mais je vais vous interrompre une seconde. Vous êtes venu d'Iran, donc, mm-hmm. et vous avez tout de suite eu le droit de rester en France. Comment ça s'est passé, l'administration de votre arrivée? On vous a accueilli comme ça en disant bienvenue ou ça a été compliqué?
Non, c'est très très compliqué et parce que quand je suis entré en France, il est autonome, fin d'automne,
à l'automne.
À l'automne,
c'était
voilà.
L'automne.
Près de l'hiver, c'est très froid. Il fait
froid.
Il faisait très très froid. Oui. Nous attendons sur la queue.
Oui.
Pendant peut-être une heure et demie.
Où ça, devant les préfectures ou devant...
Non, d'autres choses. Avant de demander d'asile, il faut...
pour déposer une demande à la préfecture.
Non, avant, vous devez déposer votre document chez guichet unique.
Ah, d'accord.
En France, il y a beaucoup de guichets uniques. Donc, pour demander ça, il faut attendre sur la queue, qui est très, très loin.
C'est pour faire le permis de conduire en France aussi, il faut faire la queue. Enfin, avant, il fallait.
Oui. Mais après, étape par étape, j'ai choisi mon chemin. Par exemple, j'ai concentré sur apprendre le français. Oui. Parce que j'ai compris que c'est très, très important pour entrer dans société de français et pour travailler de travail.
On va maintenant écouter un petit morceau de musique de Martil Bahar Soleike, je crois. Et après, on va revenir sur ces histoires de papier. Parce que c'est intéressant, parce que pour pouvoir parler français, il faut quand même avec le droit rester en France. Et on va y revenir dans un instant. Donc je suis avec vous, Ali, et avec vous, Shala. Et on parle autour du périple de la venue de Ali Ramana en France.
بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش خاطر خوا شد بهار اومد هوا خوب
محبوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. سری زدم به صحرا، عجب بوی خوشی دارد. سری زدم به دریا، هوای دلکشی دارد. همین عطرا، همین بوها، منو دوباره عاشق کرد. همین نسیم شب بوها، منو دوباره عاشق کرد. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. باز خاطر خواه شد. بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه. بهار اومد گلا وا شد، دل ما باز خاطر خواه شد. بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه. بهار بازم.
Voix sans frontières sur Aligre FM.
Vous écoutez Chute Libre dans le cadre d'une Voix sans frontières. Je reçois Ali Rahmana et accompagné de Charles Shafik. Ali, on vient d'écouter une musique alors qui était de Martik, qui est un musicien iranien, et la musique s'appelle Printemps.
C'est ça, Bahar, au Bahar, printemps.
Au printemps. Et alors c'est une musique qu'on écoute au premier de l'an, c'est ça? Non, on écoute ça au moment des fêtes ou quand?
Oui, c'est ça. En Iran, nous avons une grande fête qui est très très ancien, qui s'appelle Nowruz. Nowruz, qui vient de deux mots. No, ça veut dire neuf.
Oui.
Neuf ou nov.
Tout à fait.
Rouz, ça veut dire jour. Ça veut dire
les nouveaux jours.
Oui, bon, voilà, c'est nouveaux. Ça. Oui. Donc, normalement, en ce temps, pour cette fête, toutes les familles gardaient chez le grand-père, grand-mère, etc. Chez quelqu'un qui est vieuse dans la famille.
D'accord, on va chez le plus vieux de la famille, c'est ça?
Plus vieux de la famille, voilà.
Plus âgé.
Ouais. Plus âgé, exactement. Plus âgé de la famille. Normalement, nous écoutons des musiques très chante, ça veut dire quoi, chante?
Gay, heureuse,
c'est ça.
Entraînante,
gay, voilà, c'est ça. Ouais. Comme cette musique, par exemple.
D'accord, elle est sympathique, cette musique.
Oui.
Voilà, je trouve. Et alors, ça vous évoque ça? Vous avez, vous, été dans votre famille, chez le plus âgé de votre famille, pour écouter ça?
Voilà, ouais. Exactement. Peut-être non. Normalement, on danse ensemble avec les musiques rythmiques comme ça. On a mangé des noix, des fruits, des gâteaux ensemble. Voilà.
Et c'est à quelle période de l'année?
À quel mois
on fait
oui,
ça?
Exactement. En premier jour
de l'année, le premier de l'an. Voilà.
Non.
Le premier jour de printemps.
L'année iranienne, ça, le calendrier persan, c'est le premier jour de printemps, ça commence l'année.
Ah, très bien, c'est prudent. Ouais. C'est
puisque
prudent,
la nature
ça.
Se renouvelle. Ah, et ouais. L'être aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on est censé de renouveler l'année.
Ah, d'accord.
C'est une philosophie très ancienne.
Oui, mais c'est bien sympathique de commencer au début, oui. par le beau temps.
Très jolie fête.
Oui, très bien. Alors donc, on était en train de parler des demandes d'asile et des choses comme ça. Est-ce que vous aussi, Charla, c'était compliqué pour vous la demande d'asile pour venir en France ?
Nous, en écoutant Ali, je pensais aussi à ça, c'est que moi, c'était dans les années 80.
Oui.
C'était pas du tout dans le même état d'esprit. Lui, il est très positif et je trouve ça formidable. Très volontaire pour apprendre la langue, etc. Moi, je sortais d'une révolution à laquelle j'avais participé qui avait absolument échoué. Il y avait un bain de sang et j'étais pas du tout dans le refus de rester. J'étais projetée dans quelque chose que je voulais absolument pas. Puisque j'étais poursuivie par la police politique et j'étais obligée de quitter le pays. C'est le cas aussi pour Ali. Je pense qu'Ali aussi est obligé, mais ce n'était pas la même obligation.
Bien sûr,
c'était... Et donc, quand je suis arrivée ici, je refusais absolument de parler alors que je connaissais très bien la France, avoir lu les traductions des romans, des choses, etc. Et je connaissais Paris même par les rues parfois, ayant lu des choses traduites. Mais je refusais absolument de parler même ou d'apprendre même un mot parce que pour moi, ça signifiait le vouloir rester.
Oui, et je l'intégration, voulais... vous intégrer, rester ici.
Voilà. Alors lui, il est vraiment dans l'idée de l'intégration. Oui. Et je pense qu'il y a un lien direct entre l'apprentissage de la langue et ce désir.
Oui, bien sûr, je suis d'accord.
Et moi, quand je l'ai eu après, j'ai commencé, une fois j'ai eu ce désir, j'ai commencé à apprendre par l'écriture surtout. Mais lui, il est vraiment, c'est fascinant, c'est comment il essaye, bon, tous les moyens, YouTube, la mairie et tout. Moi, j'allais dans les cours parce que c'était le plan, mais j'écoutais même, ça veut dire en fait ma tête n'était pas là. J'étais dans le passé.
Mais vous avez aussi des intérêts qui étaient différents par nature, puisque finalement vous êtes devenu écrivain. Enfin, vous avez
mais je refusais la langue, je refusais l'apprentissage, puisque ça disait alors que j'adorais la langue française. J'adorais écouter quand j'étais en Iran la langue française, mais je connaissais rien sauf bonjour. Alors, mais je me rappelle très bien à l'époque qu'on vivait dans les chambres de bonne. J'étais dans les chambres de bonne et il y avait des. Et même pour ne pas être obligé à parler avec les choses, j'avais appris un de. Et quand j'allais acheter quelque chose, je disais un de ça pour ne pas parler. C'était vraiment une résistance énorme. Ça a duré quelques mois quand même, avant que tout soit écroulé, que je sois arrivée à la conclusion selon laquelle je devais rester absolument. C'est là où j'ai décidé de sortir de cette parenthèse et d'apprendre. Et j'ai appris et j'ai commencé à écrire.
Parce que c'est difficile d'exister dans un pays quand on ne parle pas la langue. Moi, je sais, quand j'arrive au Danemark, je ne savais pas. Quand j'allais faire les courses, je ne savais pas quoi faire. Et j'avais appris le mot côtelette, parce que c'est le même mot, côtelette. Et c'est côtelette en danois, c'est presque pareil.
Oui.
Et donc, pendant 3 mois, j'ai mangé que des côtelettes.
Ça, c'est des anecdotes interculturelles.
Et oui, parce qu'il faut bien manger.
Oui.
Et alors, la demande d'asile, vous avez fait la queue longtemps et ensuite, vous avez réussi à obtenir des papiers qui vous ont permis de faire des études de français. Comment ça, parce que ça peut être long.
Oui, pas vraiment permis d'apprendre français parce que pour apprendre le français, nous n'avons pas besoin de papiers, etc.
Ah, d'accord, on peut s'y mettre tout de suite.
Non.
Ah,
mais je ne sais pas que je peux commencer par chez l'université.
Ah, d'accord.
Ça veut dire, si je retourne d'avant...
Oui, en arrière.
En arrière, j'ai commencé par l'université. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'en... à l'université, vous pouvez apprendre le français très très professionnel, professionnel que d'autres, par exemple, chez association, etc.
Oui, il y a un savoir de l'enseignement de la langue étrangère. Voilà,
c'est ça.
Je suis d'accord.
Mais il faut ajouter quelque chose on ne doit pas oublier que, par exemple, maintenant, nous avons beaucoup de choix pour apprendre le français.
Bien sûr.
Qu'avant, par exemple. J'entends
plus de choix que dans mon temps.
Voilà. Okay. Ça demande que vous voulez apprendre cette langue ou non.
Oui.
Vous
oui.
voulez voilà. ou non. Voilà. Mais
c'est la volonté et le désir aussi.
C'est essentiel. Alors j'ai regardé un peu votre programme, oui. votre programme d'études, moi, parce que vous me l'avez très gentiment ah oui. envoyé, et c'est considérable parce que vous faites 2 heures d'activités sportives et culturelles. Bon, très bien. Mm-hmm. Vous faites 2 heures de compréhension orale mm-hmm. par semaine, 3 heures d'expression orale par mm-hmm. semaine, 2 heures d'expression écrite par semaine. Vous faites projet de formation et d'insertion socio-professionnelle, 2 heures. Vous faites expression écrite 2 heures, vous faites compréhension écrite 2 heures, vous faites travaux écrits et oraux type licence 2 heures, et culture et mode de vie en France 3 heures. Mais donc vous êtes bien occupé, parce qu'après il faut oui, travailler un sûr. Peu à la maison, enfin, à, la, oui, voilà. à la chambre.
On peut dire chaque jour pendant 7 ou 8, 8 heures
oui.
Qu'on doit apprendre le français. Mais par exemple le mardi, je suis allé à l'université excuse-moi le matin jusqu'à 21h du soir.
Ah oui, c'est des longues journées. Ouais,
longues journées. Oui, et il faut essayer pour apprendre le français. Mais autre, nous avons un jour férié par semaine.
Oui.
Mais j'ai choisi ce chemin parce que pour avoir une formation
solide,
voilà. Parce que pour entrer dans mon métier, normalement, il faut adapter mes informations professionnelles. Avec le métier en France.
Et la nourriture alors ? Est-ce que la nourriture iranienne et la nourriture française, c'est pas trop compliqué le changement d'habitude alimentaire ?
Si, mais j'ai choisi des alimentaires iraniens comme avant.
Ah,
parce
d'accord.
que grâce à l'épicerie, grâce à un magasin de turc,
oui.
je peux trouver beaucoup
d'ingrédients
iraniens.
Similaires.
Et, voilà. et économiquement, quand on est exilé, qu'on arrive, est-ce qu'on reçoit des aides? Comment ça se passe pour, parce qu'il faut
oui, en début, c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué parce qu'en début, nous avons gagné...
Au début,
nous avons gagné... 3 ou 5 ans par mois
ouais.
pour acheter des nourritures, etc.
Par mois,
oui, voilà.
3 euros 350 euros.
J'ai peur. Ouais,
ouais,
c'est
3,50
euros.
Ah, j'ai dit 3,50 euros. Ouais. Je sais,
désolé. Vous êtes assez mince, donc je me suis dit.
Donc, c'est très, très compliqué. Parce
qu'on
ne peut pas travailler, etc. On ne peut pas toucher d'autres choses. Mais il y a beaucoup d'associations qui a aidé des gens
ah oui.
Qui besoin de nourriture, etc. Nous avons passé 9 mois comme cette histoire.
Ah oui.
Voilà. Après.
Ça veut dire 9 mois avec 300 euros.
Avec 350 euros.
Pour manger.
On doit payer aussi le transport avec ça aussi.
Voix sans frontières sur Aligre FM.
Thank you. کنم. پیشش خیلی زیبا زیبا، خیلی کوچیک، دنیا دنیا، با یاد تو هم هر جا هر جا ترکت نکنم. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی، دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون اگر از تو دورم به هر جا، بر یار دیگر نبندم دلم را، سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا.
C'est Chute libre avec Paul de Broncien et je reçois aujourd'hui Alia Hamana et Shala Shafik, qui sont tous deux, à des époques différentes, réfugiés et exilés d'Iran. Et on vient d'écouter une très belle musique de Aref et je crois que c'est une musique qui est très significative pour vous parce que oui. Dans le studio, il y avait un sentiment d'émotion jusque-là.
Oui. Oui. Vous savez, c'est, à l'époque, c'est-à-dire, en fait, c'est une musique qui... une chanson qui a eu beaucoup de succès avant la révolution parmi les gens. Et donc, à l'époque, moi, je l'aimais beaucoup. Mais il se peut que dans cette révolution Femmes, Vie et Liberté, il y a une des jeunes icônes de cette révolution, Nika Shakarami, qui, après les vidéos des jeunes, circulent. C'est-à-dire, c'était plein de gaieté. C'est des jeunes qui sont très, très beaux, des jeunes femmes belles et des jeunes hommes. Et donc, cette jeune femme... qui avait 16 ans, qui a été tuée, elle chantait, elle performait dans un jardin cette chanson-là, et ça a fait que c'est devenu un air qui se répétait même dans les manifs. Donc, alors que c'est lyrique, c'est un peu une chanson amoureuse, donc c'était vraiment un contraste très intéressant.
Oui. En tout cas, c'est très beau. Et tous les deux, vous la fredonniez, cette chanson, vous la connaissez.
Oui, tout le monde le connaît, le peuple iranien. Puisque c'était aussi dans un film à l'époque, un film populaire, Sultan Ghalib, qui était très très populaire. Et il y avait un comédien qui a été interdit après la révolution, qui l'a interprété. Et donc tout est nostalgique et en même temps tout est très actuel.
Exactement. Oui. Alors Ali, vous êtes... expert comptable, vous avez fait de l'audit, vous êtes venu en France dans des conditions évidemment difficiles, dont vous m'avez dit que vous ne vouliez pas trop parler parce que ça ne vous plaisait pas d'en parler, ce qui est très compréhensible et que nous respectons bien volontiers. Mais vous aimez aussi beaucoup la nature. Je crois que vous ne faites pas que des lectures de livres comptables, mais vous avez quelqu'un qui a beaucoup d'affection, d'amour pour la nature et particulièrement par la montagne. Racontez-nous. Et puis alors, ça va nous permettre de vous demander, c'est comment la montagne iranienne? Parce qu'on ne connaît pas, nous. C'est des grandes montagnes, des petites montagnes, des grosses montagnes. Comment c'est?
Voilà. Je crois que c'est mieux qu'on dit, je n'aime pas la nature. J'adore la nature.
Bravo.
Ouais, voilà. Parce que...
Oui, il a saisi la nuance. Très, très bien. Excellent.
Parce que quand j'étais en Iran, chaque semaine, je pars à la nature. Mm-hmm. Ça veut dire...
Dans la nature.
Dans la nature, ouais. Oui, vous avez raison. Et chaque semaine, vraiment chaque semaine, mais quelques mois, par exemple, fin de mois, je pars à la province. Parce ouais. que fin de semaine, nous n'avons pas beaucoup de temps pour partir. Quand... pour 2-3 mois, j'ai organisé mes programmes pour partir, par exemple, oui, pour partir à la province, mon province, parce que j'habite à Mashhad, qui est l'est d'Iran. Mm-hmm. Qui est l'est d'Iran.
Grande ville.
Oui, c'est très grande ville. J'ai parti à la province à destination différente. Par exemple, ça dépend de quel temps, ça dépend de quelle saison, etc. Mais par exemple, si vous voulez aller à la grande montagne d'Iran qui s'appelle Damavand, qui a 5652 mètres
d'altitude.
Altitude, c'est ça. Ah.
C'est
très haut. Normalement, si vous voulez aller là-bas, en hiver, c'est très, très compliqué. Peut-être on peut dire que c'est dangereux. Normalement, nous avons organisé des programmes pour aller à la montagne de Damavand en été.
Elle s'appelle Dodanovand.
Damavand.
Damavand.
Exactement.
Mais alors, à la montagne, vous faites du ski, ou vous faites de l'escalade, ou vous faites de la marche, ou vous marchez sur les glaciers, qu'est-ce que vous faites?
Voilà, ça dépend de quelle montagne. Par exemple, normalement, si vous voulez aller, vous voulez faire du ski, il faut choisir d'hiver.
Oui,
parce qu'on
neige,
c'est ça, vous avez besoin de neige. Et donc, en été, normalement, j'ai choisi de la montagne haute.
Voilà.
Oui. Haute, parce que...
Haute montagne.
Bon. Haute montagne.
Oui, c'est ça.
Parce que, oui, il fait plus chaud qu'hiver. Qu'hiver, voilà. Mais pour autre saison, par exemple pour printemps, j'ai choisi aller à la forêt. Parce qu'en nord d'Iran, il y a grande forêt très très ancienne.
Ah,
qui vient
très ancienne. Oui.
Très très ancienne. Ancien, oui. Qui vient d'un million d'années
oui.
avant. Ah oui, oui avant. Oui. Très très ancien, qui est très joli.
Et c'est quoi comme type d'arbre?
Je ne sais pas comment on peut dire en français, les arbres Pahnberg. Pahnberg.
Je n'arrive pas à trouver.
Avec des feuilles qui restent vertes
oui.
tout le temps
ou non, 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 non.
Perdent leurs feuilles.
Perdent de la feuille, mais il y a qui. Parce qu'on a des feuilles minces,
oui.
on a des feuilles
épaisses.
Bon, voilà.
Larges, ouais, d'accord.
Voilà. Donc. Pour le printemps et pour l'automne.
Et ils s'appellent comment les arbres, excusez-moi, en iranien alors?
Hirkoni.
Ah,
c'est bon. La forêt s'appelle Hirkoni.
La forêt de Hirkoni, c'est très très ancien.
Et c'est des grandes forêts?
Exactement.
Et très très grand ou?
Très grand, oui. N'est pas comme français parce qu'il y a beaucoup beaucoup de forêts en France et Europe aussi. Mais. En Iran, c'est très grand.
Et il y a des animaux dans la forêt?
Oui.
Oui.
Avant, très ancien, ça veut dire 30 plus. 50 ans, peut-être 100 ans, 100 ans, il y a des tigres.
Il y avait
des tigres.
Tigres,
etc. Mais maintenant, non, il n'y a plus de tigres. Mais quelquefois, vous pouvez trouver des bières.
Des ours.
Voilà. Par n'est pas dans toutes les forêts. Mais, oui, il y a beaucoup des animaux dans cette forêt.
Et vous êtes soucieux, vous aussi, de l'évolution du climat. Est-ce que le changement climatique en Iran, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup dans la montagne et dans la forêt, justement?
Oui, mais c'est une chose qui est peut-être pour vous, c'est intéressant. Parfois, vous pouvez trouver 4 saisons en même temps.
Ah oui, c'est ça.
Ça veut dire comme maintenant.
Il fait très froid, puis très chaud, puis soleil.
Non, c'est dans ça, les non. différentes régions du
Dans monde. Différentes de régions, vous pouvez avoir les différentes de saisons. Ah, par exemple, maintenant, vous pouvez aller à l'ouest d'Iran, qui est hiver, déjà. Et hiver, vous pouvez faire du ski, etc. En même temps, vous pouvez prendre un avion, aller dans 2 heures, vous pouvez arriver en sud d'Iran, qui est été.
Ouais.
Déjà, il fait 35 degrés. Voilà. Si vous voulez bronzer, vous pouvez aller à Sandiran, qui est un grand désert.
Comment le désert?
Désert Lut. En été, il fait 56 degrés.
Ah, oui.
On ne peut pas rester là-bas 12 secondes. C'est très chaud. Mais maintenant, le printemps, 25 degrés. Voilà.
Dites-moi, je voulais juste. J'ai vu que vous aviez. Comment est-ce qu'on dit partir à la mer, par exemple, partir à la montagne en iranien? Comment ça se dit?
Raftan. Ma langue?
Oui, en iranien.
Raftan beku, raftan be daryo.
Oui. Voilà. Parce que très souvent, moi je me suis rendu compte, parce que c'est un sujet sur lequel j'avais en son temps travaillé, qu'on fait des fautes dans la grammaire de l'autre, c'est-à-dire la grammaire française, vous allez reprendre des structures grammaticales qui sont celles de votre langue.
Oui.
Et c'est quelque chose, c'est intéressant pour ça, c'est une espèce de façon de vous suggérer de faire bien attention à ça, parce que ça va vous aider à retrouver la bonne structure en français.
Moi,
j'avais travaillé sur le danois là-dessus, et je m'étais rendu compte que il y avait tous les danophones, enfin tous les scandinaves faisaient les mêmes fautes en français, qu'ils venaient de la structure de leur propre langue. Et donc partir à, vous le faites quand vous allez où que vous alliez, vous faites le même usage, ce qui est joli d'ailleurs, mais qui n'est pas forcément comme ça qu'on dit. Quoi votre rapport avec la langue française? Qu'est-ce que vous en pensez de la langue française, vous, comme ça, en intimité? Elle vous plaît, vous fatigue, trouve ça? Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est la langue française vraiment, vraiment difficile.
Oui.
Je dois c'est pour apprendre le français, améliorer ma langue, donc
mais moi je vous demande un sentiment, je comprends bien, qu'est-ce que vous en pensez?
J'aime la langue française, j'aime la langue française, mais pour moi, je n'ai pas de choix, parce qu'il faut, il faut apprendre le français.
Voilà.
Mais vraiment, maintenant, je peux dire que je peux connecter avec cette langue. Parce que quand je suis arrivé en France...
Bien, tu parles très bien.
Merci, c'est gentil.
La comptabilité linguistique en partie double, il y a le crédit, le débit.
Mais voilà, quand je suis entrer en France, je sais que je dois essayer pour apprendre le français. Voilà.
C'est un être de devoir, Ali.
Voilà.
Une fois de plus, le stick, le cercle rouge, le chant de l'exilé, le chant des clans d'eau,
Je me fais tout ramier, je me presse pas pour prendre mon essor. Mon rap sincère touche, contact direct à la gilette sensor. Vous pensez sensor de mon esprit dans cette brousse. À ceux que j'ai laissé au loin, mon cœur désire vous revoir tous. Ici, j'en vois plonger dans les arbres, grosse balafre, pas taf. Ces jours ils scannent pour 20 000 se déchire. En plus, la société de conso coûte cher, my dear. J'ai pas le temps de jouer les chants, racket, j'ai trop de choses à dire. Malgré l'histoire, nos parents demeurent exilés. Pour la France, aux travaux, leurs dos se sont brûlés, c'est vrai. En terre d'accueil, en terre d'exil, la patrie est un vain mot. Bientôt, dis piche que je suis en France, mon rap bien de mots. Ma carcasse mouillée de musique dans ce carton, j'ai fabriqué. Mystique, mon sobriqué, la réadaptation. Les charnes est encore là, j'apprends à être heureux ici. J'ai des repères, mais je suis mal assis.
Yeah, Mystique Gris, yeah, Mystique Ra. Yeah, Mystique Gris, yeah, Mystique Ra.
Est-ce que la cour dort?
Non, la cour ne dort pas.
Est-ce que la cour dort?
Non, la cour ne dort pas.
Yeah. Le chant de l'exilé, ma légende plane, bien stylée. Mystique, viens te secouer. Le chant de l'exilé, ma légende plane, bien stylée. Le chant de l'exilé, c'est aussi des orphelins de la rébellion qui errent affamés dans le silence. Je brise des murs en informant les consciences. Chacun son but derrière le micro, chacun sa version. Mike Degen manifeste, franche aversion. Je le sais, les autres le savent, moi j'élève les branches de ma pensée en terre étrangère, habillée de rêve. J'ai traversé pas mal de feux de la vie. On fuit le pays comme un microbe, ici on cherche la vérité qui se dérobe. Cette vie me tourne le dos comme une femme à un homme pour toujours. Je dois la reconquérir, apprendre à courir, tenir. Se démener même au milieu de mille dangers, je suis qu'un étranger débarqué en France pour mieux manger. Insulté par la dalle, je prends de l'âge. Sans phare, sans fanfare, je n'arme plus de cafard parmi les chiffres.
Voix sans frontières sur Aligre FM.
Aujourd'hui sur Chute Libre, je reçois Ali Ramana, qui est une voix sans frontières, puisqu'il est venu d'Iran, il est venu jusqu'à nous pour apprendre le français principalement, j'allais dire. Parce qu'il écrit, il a dit, il m'a écrit une petite lettre avant qu'on fasse notre émission. Il veut apprendre le français afin de pouvoir contribuer à la communauté française et améliorer ma vie. Vous avez écrit ça. Voilà. C'est tout à fait émouvant et c'est heureux, mais c'est pas toujours facile de contribuer à la vie d'un pays. On a tous envie, d'une certaine façon, mais qu'on soit français ou qu'on soit iranien venu en France, et vous êtes bienvenu, bien sûr, c'est pas toujours facile de trouver la façon de contribuer à la communauté dans laquelle on est. D'abord parce qu'on n'est pas forcément, même si on est français, on n'est pas forcément en osmose permanente avec la communauté dans laquelle on arrive, parce qu'on est tous étrangers à nous-mêmes. Je veux dire, il y a les étrangers, puis il y a les Français. Et le discours communautaire d'un pays, il n'est pas toujours à l'unisson du vôtre intérieur. Et donc c'est tout un travail, un travail qu'il faut faire et qui est beau à faire, par la langue aussi, mais par aussi l'attention aux autres, comprendre comment ça se passe, et essayer de faire en sorte que les choses se rapprochent de ce qu'on peut aimer. Donc c'est... Mais vous avez un avantage, Ali, c'est que vous avez d'abord l'amour de la nature, et ensuite vous avez une compétence professionnelle qui semble avérée, parce qu'à vous entendre, et du courage, et donc ça c'est merveilleux, c'est des outils qui peuvent vous faciliter l'accès à la vie commune, j'allais dire. Donc ça c'est oui. Bien. On vous avait posé la question tout à l'heure, on n'était pas pendant l'émission, mais si vous aviez apporté un objet d'Iran avec vous pour un objet aimé, et vous m'avez répondu, je vais vous laisser répondre ce que vous m'avez répondu.
Malheureusement, je ne peux pas emporter quelque chose parce que je dois quitter tout de suite mon pays. Je suis arrivé ici avec petite valise,
oui.
Parce qu'on n'a pas de temps pour choisir, garder quelque chose pour mettre dans mon valise, etc. Je dois partir
tout de suite. Et il y a des objets qui vous manquent, que vous vous dites, ah zut, j'aurais dû l'emporter, vous voyez.
Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, mais j'ai emporté... C'est juste mon histoire.
Eh oui, c'est déjà bien.
Voilà, parce qu'on ne peut pas, mettre à côté, on ne peut pas jeter.
Mais oui, elle est voilà. En vous. Voilà, ça c'est dans magnifique.
Et surtout quand je me souviens mes amis, etc. Mes vies en Iran, mon travail. Voilà.
Et vous êtes venu tout seul ou vous aviez des gens que vous connaissiez qui étaient avec vous quand vous êtes parti?
Non, je suis venu en France avec ma femme.
D'accord.
Comme j'ai dit, on ne peut pas garder quelque chose, on doit quitter tout de suite ma vie. Mais vraiment, je n'aime pas expliquer sur mon histoire. Pourquoi? Parce que je vais traumatiser. Parce que je n'aime pas retourner à mon histoire.
Dans la douleur.
Sauf l'histoire que j'étais content avec, j'étais heureux avec mes amis, etc.
Ah oui, c'est ça. Mes et votre femme, elle est aussi dans le, elle a un métier aussi, qu'elle a appris un métier, votre femme.
Oui, elle est aussi comptable.
Ah, d'accord.
Elle est aussi comptable. Nous rencontrons à mon travail.
Oui.
Donc nous avons...
Vous vous êtes rencontrés à votre travail.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Rencontrés au travail, et donc nous avons connu dans mon travail.
Au travail, c'est ça. Et elle fait du français, elle aussi, ou elle a la même intensité d'investissement que vous.
Exactement. Ouais, c'est remarquable, ça. Parfois, nous avons essayé pour parler le français chez nous.
Oui.
Mais vous savez que c'est compliqué.
Ah oui, bien sûr.
Donc nous avons préféré parler la langue maternelle.
C'est ça.
Voilà, oui, elle a appris le français aussi chez deux associations. Ouais. Pour le matin, chez l'association qui s'appelle JRS, pour l'après-midi jusqu'à soir.
D'accord. Et alors, est-ce qu'elle est meilleure en français que vous ou est-ce que vous êtes à peu près au même niveau?
Non, je crois que je parle plus. Non, je parle bien français que.
Mieux.
Je parle mieux de français que, oui. Qu'elle.
Parce que je vous pose la question parce que les Français, ils aiment beaucoup les concours.
Ah oui.
Je suis meilleur, pas meilleur.
Ah oui, ça.
C'est un truc français. Ça. Non, on croit que c'est le concours, c'est très important.
Vous avez raison. Mais peut-être je suis bavard, que je peux parler bien français que ma femme.
En tout cas, je vous remercie beaucoup, Ali Ramana, d'être venu parler de vous, de votre périple, de ce que vous avez à l'intérieur de vous-même. Et je trouve que c'était très intéressant pour moi de noter à quel point vous êtes volontaire dans votre désir de vous approcher de la langue française et de la vie française. Et en tout cas, j'ai été très touché de ce que vous nous avez dit, à Chala et à moi. Et Chala aussi, merci beaucoup d'avoir été là, parce que ça permettait de dialoguer tous ensemble.
Pour moi, c'est toujours intéressant de rencontrer les trajectoires d'exil. Mais ceci étant, je pense que l'exil est une problématique qui est universelle.
C'est pas
de toute façon, on peut être aussi exilé dans son propre...
À l'intérieur de soi-même. Ouais. Voilà. Merci beaucoup à vous deux et à très bientôt.
C'était Chute Libre. Entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie. Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Voix sans frontières sur Aligre FM.